J'ai pas compris pourquoi la jambe de Tim Cook, qui était un personnage à part entière.
T'as pas remarqué qu'il bondissait sur lui-même à chaque fois qu'il faisait une phrase? Il commençait une phrase et il y a la jambe qui le propulsait un peu en avant comme ça. Il faisait twing, twing.
Ah ouais?
Regarde à nouveau l'occasion. Il a une jambe sans repos, j'ai l'impression. C'est très particulier.
Ah, j'ai pas remarqué. Mais c'est peut-être parce qu'il était sûr de la Terre. Il a
ouais,
pas
je pense
il
que
était sur
ça
du
se fait pas
sol.
sur. Exactement. Ça se fait pas sur les. Ça se voit moins en tout cas sur le sol des scènes. Peut-être aussi parce que le pantalon est noir, la scène est noire et du coup on fait moins attention. Là, il y avait un dénivelé et du coup il n'était pas tout à fait en équilibre. Et il bondissait un peu sur lui-même. Il y avait le genou qui rebondissait comme ça, la cuisse qui touille. Et ça me fascinait. Et je trouvais ça très étrange.
Alors, j'ai pas refait tout l'historique des keynotes virtuelles, mais je me demande si c'est pas le premier où la scène
Ouais.
est utilisée sans que Tim Cook y passe.
C'est, je pense que tu as raison. Parce qu'à chaque fois, il commence sur la scène.
Ouais.
Normalement.
Ou au moins, c'est lui, enfin, au moins, c'est lui qui lance les hostilités sur scène, où il y a un passage où à un moment il l'utilise.
Voilà, c'est ça. Un moment, il est... Ou à la fin, en tout cas. Mais voilà, un moment, il y est, quoi.
Mais je me demande si c'est la
Mais...
première fois où il y est pas du tout, mais quelqu'un d'autre y est. En plus, pour un moment qui est pas... Enfin, c'est très bien les AirPods, mais c'est pas le lourd, le truc le plus lourd du spécial event,
Oui.
quoi.
Non, non, effectivement. Tu te dirais qu'il réserverait la scène, peut-être, pour quelque chose de plus... Mais non, même pas, ouais.
Il y a des moments assez intéressants dans la mise en scène. Donc ils ont toutes ces scènes en 3D. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois où ils assument complètement le côté que c'est en 3D. Oui, notamment ils ont cette longue partie où ils montrent les applications professionnelles et notamment les applications de compositing 3D, donc qui
Oui.
construisent des univers autour des gens qui parlent.
Une
Et où
bonne
t'as.
vidéo, ça, oui, un bon
Oui,
moment.
qui est très bien, et où t'as Federighi qui rentre dans cet espace virtuel qui se construit au fur et à mesure. Je crois que c'est vraiment la première fois où ils disent non, c'est bon, arrêtez. Enfin, si vous continuez à penser que c'est vrai, non, non, là, on va vous casser complètement vos illusions. Et du coup, c'est marrant parce que. Là, pour le coup, pour la première fois depuis très très longtemps, je l'ai regardé comme un simple spectateur, puisque je ne l'ai pas couvert en direct. Donc c'était très plaisant, je dois dire. Et du coup, tu as vraiment le temps de le regarder aux deux niveaux, à la fois pour le contenu et aussi pour la scénographie, et où toute la scène autour de HomePod, avec cette maison et tout ça, et la mise en scène de la domesticité, je l'ai regardé presque dans un état second, quoi, parce que j'ai regardé plus la mise en scène que ce qu'il racontait.
Ouais.
Et pareil, quand ils parlent de la puce. T'as à la fois cette mise en scène très compliquée du labo avec les Mac Pro serveurs et tout ça, et John Ternus qui parle dans une salle qui est complètement vide.
Oui, il y a juste un écran et c'est tout.
Ouais.
Ouais,
Et qui est une
ouais.
salle complètement virtuelle, mais t'as l'impression que c'est un environnement 3D qui a pas été généré, qui a pas été rendu.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un côté très... Oui, le cube est pas fini, ouais.
C'est ça. Et je trouve. Ces moments sont assez marrants parce que oui, tu peux regarder le keynote de 2, 3, 4, 5 manières différentes, quoi. Tu peux te concentrer sur la musique, tu peux te concentrer uniquement sur la scénographie, tu peux
Très bonne
te...
musique d'ailleurs cette édition, des vrais titres. D'habitude, ils composent toujours plus ou moins leur bande son.
Ouais.
Et là, ils ont eu des vrais artistes. Je crois que la maison, ils l'avaient déjà utilisée pour un des précédents keynotes, et je pense qu'elle est vraie du coup.
C'est devenu un acteur de la scénographie des keynotes, mais oui,
Ouais.
enfin, il y a des studios, enfin, il y a des sets avec les meubles, mais le décor en lui-même est composité. D'ailleurs, ça s'est mieux vu cette fois-ci parce qu'à un moment, t'as la caméra qui recule et où tu vois derrière des montagnes
Ah
et juste
oui,
non.
effectivement, oui, non, non, oui.
Et surtout, la gamine, elle sort avec son skate par la porte et soudainement, la porte, quand tu l'ouvres, il y a du goudron et c'est le goudron de l'Apple Park.
J'avoue, bon, d'accord.
Mais
Oui.
c'est ce qui est, enfin, c'est l'espèce de mindfuck aussi qui marche bien, quoi. C'est, tu sais pas vraiment où t'es, est-ce que t'es dans l'Apple Park, est-ce que t'es en studio, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est composité, est-ce que, enfin, même la partie avec Zane Lowe où il est dans un environnement, il y a
Oui.
de la volumétrie parce qu'il peut poser la main à des endroits, mais c'est du fond vert, tout est composité. Et c'est fabuleux parce que, tu peux mettre pause, tu peux passer un quart d'heure à regarder et tu vois pas où sont les raccords. C'est
C'est
vraiment,
très bien
c'est très
fait.
très bien fait.
C'est très très bien fait. Je sais pas qui ils ont embauché pour ça, mais c'est une bonne agence, oui. Je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est maison quand même.
Et moi, ça me pose vraiment la question, quoi. Est-ce qu'ils vont revenir un jour au keynote traditionnel?
Je pense qu'il y aura quelque chose d'hybride en vrai. Je pense que... Parce que le end zone à la fin, pour la presse et tout ça, je pense que c'est vraiment important pour eux. Et je crois que Cook est quand même de l'école où la physicalité est importante. Je pense que ça va revenir d'une manière ou d'une autre, mais je verrais bien des petits keynotes virtuels, comme ça, de temps en temps, sur des sujets peut-être qui ont moins besoin d'être présentés comme ça. Enfin, l'intérêt, c'est que pour une boîte en plus comme Apple, tu vois, qui adore le contrôle, enfin, tu contrôles absolument tout quand même, quoi. Le timing de A à Z, c'est fantastique.
Et puis, si t'as un produit qui est pas prêt, tu peux couper les 15 minutes et puis les mettre.
Exact.
puis les garder sous le bras, quoi.
Je pense qu'ils s'en sortent bien, en fait. Ça, pour les lancements de produits, c'est vraiment pas mal.
Ouais, je trouve que c'est. Et puis, tu as maintenant une diversité. Enfin, là, on n'est même plus sur des vice-présidents et vice-présidentes. On est sur.
Ah oui, on voit tout le monde.
Presque des péons de base, quoi.
C'est, oui. Mais c'est fantastique parce que du coup, tu peux donner ton petit avis, genre, c'est un casting, quoi. Et chaque fois, t'es en mode, oh, mais elle n'était pas géniale. Ah, elle est super, par contre, elle. Il faudrait des awards, tu sais, à la fin de l'année, des récompenses.
Et c'est un truc que j'avais toujours entendu qui était que les vice-présidents qui étaient dans les keynotes, c'était les vice-présidents qui étaient responsables du produit.
Ouais.
Et où là, quand tu vas regarder, quand tu vas regarder sur LinkedIn les profils, en fait, c'est vraiment, c'est ça, quoi. C'est le responsable. Mais ça remonte plus au niveau du vice-président. C'est vraiment le responsable le plus près de la conception du produit qui vient t'en parler. Pour une boîte qui a toujours été secrète et qui prétendait que LinkedIn n'existe pas, je trouve aussi, enfin, c'est aussi une belle manière de montrer qu'une petite partie de la culture de la boîte a changé et qu'elle n'hésite plus à dire « Regardez, on a les meilleurs ingénieurs de la planète et on vous les montre. »
Oui, ça les valorise quand même pas mal.
Ouais.
Je suis un peu circonspect sur les histoires d'Apple II. Enfin, non pas que je pense pas qu'Apple soit parfaite hein, comme entreprise, c'est forcément à certains niveaux toxique ou ce que tu veux. Mais les deux personnes qui ont été virées pour l'instant me donnent pas l'impression d'avoir été virées pour rien. J'ai l'impression que ça a été une tentative d'instrumentalisation pas mal quand même. Après, je dis pas, je pense que les torts sont partagés et tout ça, mais j'ai l'impression quand même que la culture, on parle pas du retail qui est son propre enfer à lui tout seul,
ouais.
Mais la culture interne évolue plutôt pas trop mal, j'ai l'impression.
J'ai l'impression que ça bouge. Ouais. J'ai l'impression que le fait qu'il y ait un Slack qui ait remplacé notamment tout ce qui pouvait se passer sur IM,
ouais.
Et que ce soit un Slack qui soit cross-division, ait quand même changé pas mal de choses, ça a probablement provoqué une partie d'Apple II, et je crois qu'en ce qui concerne la question syndicale et la question de l'égalité salariale, c'est pour le mieux,
oui.
Et que la poutre a pas fini de travailler et qu'il va falloir aller jusqu'au bout de la démarche. Mais qu'après là-dessus c'est une boîte très américaine quoi. L'opposition d'Apple à la syndicalisation, enfin oui, ça s'appelle être une boîte américaine quoi. C'est
oui, voilà, c'est pas très
c'est
étonnant.
Dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, non, les pratiques de flicage des salariés sont absolument dégueulasses encore une fois. Mais enfin c'est une boîte américaine moyenne. Enfin là-dessus c'est une boîte qui est absolument pas différente des autres.
C'est ça.
Mais ça travaille et je crois que ça travaille dans le bon sens. Enfin voir des femmes. Et pas seulement, enfin, voir des ingénieurs, pas seulement des ingénieurs hommes, et pas seulement des ingénieurs hommes indiens. c'est quand même le truc un peu facile quand tu veux faire de la diversité. Tu mets l'indien de service sur scène.
Oui.
Là, c'est pas seulement ça, quoi. Et c'est pas seulement la diversité genrée ou la diversité de couleur, quoi. C'est aussi, enfin, c'est toutes les formes de diversité. Et tu peux être cynique et dire, ouais, c'est un peu forcé, c'est de l'affichage. Mais putain, parfois, la représentation, c'est bien aussi.
Je pense en vrai que c'est pour le mieux. Je pense qu'au début c'était vraiment forcé parce que on voyait que. Alors c'est purement une interprétation de ma part. Hein, donc si ça se trouve c'est tout à fait mauvais comme comme analyse que je vais faire. Mais c'est une démarche relativement récente et au début il y avait ce côté un peu artificiel. Mais j'ai l'impression que ça s'est vraiment bien passé et que c'est bien rodé. Que c'est des gens qui ont envie de le faire maintenant. Parce qu'avant, on avait l'impression que c'était un peu contraint, quand même, dans un sens. Je sais pas comment dire. C'était des gens pas très à l'aise. C'était un peu maladroit, quoi. Là, c'est des gens qui sont vraiment bien dans leur peau, ça se voit.
Oui, et puis ce serait artificiel si c'était pas les gens qui étaient responsables du produit.
Exact.
Mais à partir du moment où c'est vraiment le reflet... Alors, je ne doute pas que s'ils ont le choix dans l'équipe Siri... entreprendre un mec blanc de 40 ans ou une femme d'origine indienne qui a 32 ans, ils vont prendre la femme d'origine indienne qui a 32 ans. Mais encore une fois, tant mieux, je veux dire, la représentation, encore une fois, c'est bien, c'est aussi un enjeu. Mais c'est pas tout à fait pareil de dire, à capacité égale, je vais prendre le choix a le plus de sens d'un point de vue inclusion, ou de dire, ah bah, on peut pas remplir notre quota, donc je vais aller chercher quelqu'un dans une autre division, ou je vais aller chercher un acteur, et je vais lui faire jouer un rôle. Non, là, c'est des vrais gens, c'est des gens qu'ils ont briefés, c'est des gens qu'ils ont formés, et ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont potentiellement 100, 150 VP et SVP qui sont capables de monter sur scène et d'incarner Apple. Je crois pas que ce soit mal.
C'est même plutôt intelligent, quoi. Encore une fois, c'est une boîte pragmatique. Hein.
Et parfois, tu peux être... des sujets comme l'environnement ou comme l'inclusion, tu peux être très cynique en disant il faut une pureté chimique, et donc une boîte comme Apple peut pas porter ces sujets-là. Parfois, il faut, je crois qu'il faut aussi être un peu réaliste et faire de la realpolitik et dire, même si c'est fait de manière uniquement marketing ou si c'est uniquement de l'affichage, c'est mieux de les avoir comme alliés ou comme alliés de façade que de les avoir comme ennemis.
Certainement, ouais.
C'est pas très emballant de le dire comme ça, mais...
Ah non, mais enfin...
Je préfère Apple qui pollue moins et je préfère Apple qui montre que l'humanité, c'est pas seulement quatre types blancs qui sortent de Stanford, que Apple qui fait tout l'inverse. Enfin, je préfère Apple à Facebook, quoi, à la fin.
Marc, si tu nous écoutes, si tu sponsors le podcast, on n'acceptera pas, parce qu'on a une intégrité. Enfin, après, dis quand même ton chiffre avant.
Ouais, j'ai un prix quand même. Hein.
Oui, ouais, il y a quand même un prix. Moi aussi. Je suppute que le mien soit plus bas que le tien, mais on va pas s'engager sur ce terrain-là. On parlait de boîte pragmatique. Retour du MagSafe, est-ce que c'est pragmatique pour toi, à ton avis?
Eh ben, tu vois, je serais peut-être moins enthousiaste que la moyenne des commentateurs.
J'aimerais que tu développes.
Je crois qu'il y a un peu de nostalgie et qu'il y a un peu de nostalgie mal placée dans la réception positive du MagSafe.
Oui.
À la fin, on parle d'un connecteur qui permet uniquement de recharger.
Oui, c'est vrai.
Qui prend la place d'un port qui était capable de recharger et de transférer des données.
C'est vrai.
Donc au final, on n'y gagne pas au change.
Bah, on y perd un petit peu parce qu'on a plus. Enfin, il nous manque un port Thunderbolt, si j'ai bien suivi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand t'es sur batterie, de toute manière, t'as un port de moins.
Ouais, ouais.
Donc, oui, c'est cool. Cette machine ressemble un petit peu au G4 Titanium et au G4 d'après. Et elle a un petit... T'as l'impression d'un petit rappel des MacBook Pro d'avant 2016. Enfin, je crois qu'il faut pas se laisser complètement embarquer par la nostalgie un peu geek, un peu primaire, quoi. Il y a...
La sensiblerie.
C'est pas parce qu'on n'aimait pas la Touch Bar qu'on doit forcément aimer l'abandon de la Touch Bar.
Alors, très personnellement, je suis plutôt pour, quand même, parce que ma Touch Bar, j'en ai un sur mon Mac du travail, donc j'utilise tous les jours. C'est pas une grosse perte. Enfin, déjà, le clavier, c'est un modèle, un MacBook Pro 13 pouces avec le clavier papillon, déjà. Donc, déjà, le retour au Magic, au clavier normal, en ciseaux me plaît beaucoup. Et l'abandon de la Touch Bar me plaît aussi beaucoup. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'utilise pas bien et qui se met en travers de ce que je veux faire beaucoup. J'ai plutôt un avis négatif sur le sujet, ouais.
Je crois pas que je vais la regretter non plus, même si je suis fatigué d'avance de devoir retirer toutes les mentions de la Touch Bar dans mon bouquin sur macOS. comme de refaire 100 quelques captures de Safari parce qu'ils ont décidé au dernier moment que les onglets devaient avoir la forme d'onglet.
Appel.
Mais de manière générale, quoi, c'est pas parce que ça donne l'impression d'un retour en arrière, ce qui, à mon avis, est la manière la plus naïve de voir la chose, parce que ça n'est absolument pas un retour en arrière, mais c'est pas parce que ça donne cette impression que c'est forcément mieux. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a seulement toléré les machines entre 2016 et 2019 que cette machine est forcément mieux. Évidemment qu'elle est mieux.
oui, non, mais bien sûr, on s'entend.
Pour plein de raisons, pas uniquement parce que il y a un port MagSafe qui prend la place d'un port USB-C, parce qu'il y a des touches de fonction et un capteur Touch ID séparé. C'est un peu court, jette. Sinon. Enfin, c'est comme l'encoche.
Ouais. Ouais.
C'est un peu facile d'avoir une réaction épidermique qui consiste à dire bordel, c'est absolument n'importe quoi. Je suis pas très convaincu que ce soit une super bonne idée. Ça pose des problèmes, à mon avis, insurmontables sur la structure de la barre des menus. Mais par ailleurs, il y a des vraies explications et la manière dont il présente la chose qui est pas... Il faut vraiment re-regarder ce slide du keynote. Hein. C'est pas l'encoche qui mord sur l'écran, c'est l'écran qui remonte pour dégager une encoche. Je crois que ça dit tout de la manière dont ils ont conçu la chose. Et donc c'est un peu plus complexe que ça, quoi. Il faut se passer la première réaction épidermique, il faut se reprendre et se poser la question d'abord pourquoi est-ce qu'on a eu cette réaction. Et ensuite, il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Et je crois qu'il va falloir attendre d'avoir les machines en main pour confronter la pratique et leur présentation très théorique.
Voilà, la réalité...
Non mais, c'est marrant parce que tu vois, donc on... T'as cette espèce de sentiment positif. Ah, cette machine est super puissante, et il y a le retour de MagSafe, et il n'y a plus la touch bar. Et donc, personne ne parle de trucs assez fondamentaux comme il n'y a toujours pas de puce cellulaire.
Même pas de eSIM, ce qui serait très simple à implémenter pour le coup.
Il n'y a toujours pas d'authentification biométrique avec le visage. Truc que tous les PC ont depuis des années. Cette encoche abrite un capteur, certes 1080p, mais il n'y a toujours pas un capteur et plus que 1080p, alors qu'on a aujourd'hui des ordinateurs portables avec des caméras 4K, et des caméras 4K qui se déplacent, ou qui se déplacent au moins logiciellement. On a des iPads, y compris un iPad d'entrée de gamme à 400 balles, qui est à Center Stage.
Oui.
Pas un MacBook Pro à 6000 putains de balles.
Oui, il y a des soucis de cohérence qui sont assez flagrants quand même.
Oui, et puis, enfin, si on a envie de lui trouver des défauts à cette machine, on peut, hein. Sans vouloir faire le connard de service. Enfin, bon. MagSafe, c'est bien, quoi, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et il y a des problèmes super importants à régler avant, quoi.
Bah, à commencer par le logiciel, quoi. Parce que tu peux faire le Mac le plus pro que tu veux. C'est comme l'iPad. Au final, il est quand même limité vachement par macOS. Mm-hmm. Le Mac, il n'y a pas d'OS pour l'iPad. Et l'iPad est Pro M1, et enfin, ça sert à rien, tu vois, d'avoir un M1 là-dedans presque.
Non.
Et le Mac là, enfin, avec cette débauche de puissance, je veux bien, mais macOS est quand même sur une route qui le renferme de plus en plus, enfin, qui donne de moins en moins de choix, qui est de moins en moins pro dans un sens, parce que les pro users, enfin, les gens qui sont vraiment veulent vraiment être aux commandes de leur machine, le sont de moins en moins. Je simplifie vachement, là. Enfin,
Non, c'est un bon point. Il y a très longtemps, les applications professionnelles d'Apple, elles n'utilisaient pas AppKit. Enfin, elles utilisaient AppKit et ProKit, qui était un SDK, enfin un framework d'interface qui était réservé aux applications professionnelles. Et donc, elles marchaient différemment du reste des applications. Et c'était intéressant parce que, quelque part, tu avais... une application standard doit ressembler à ça, doit fonctionner comme ça. Il doit y avoir une cohérence à travers les applications parce que on veut tenir l'utilisateur par la main. Par contre, pour les applications professionnelles, vous faites ce que vous voulez, c'est open bar, à une condition, c'est que la forme suive la fonction. Et donc, les boutons peuvent se comporter d'une manière super spécifique. On peut réinventer la forme d'un curseur à condition que ce soit motivé par le contenu. Donc un curseur dans Aperture, c'est pas pareil qu'un curseur dans Final Cut. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, où ces applications, elles détonnent un peu dans l'OS, mais...
C'est vrai.
D'abord, ProKit n'existe plus. Et l'environnement, enfin l'infrastructure autour de ces applications, tend à dire non, ça c'est vraiment des exceptions, et tout le reste doit fonctionner comme ça. Et bon, les pros, d'accord, bon, de temps en temps, ça marche un peu différemment, mais regardez, vous êtes confronté au sandboxing, à la disparition de l'utilisateur root dans le terminal, vous êtes concerné par les mêmes problèmes avec les permissions que tout le monde, parce que vous êtes pro, d'accord, mais enfin, on vous fait beaucoup moins confiance qu'à une époque, et non, vous pouvez pas appuyer sur un bouton pour désactiver toutes les restrictions, parce qu'on vous fait confiance et parce qu'on part du principe que vous savez utiliser votre machine et que vous avez des besoins qui sont fondamentalement différents du reste de la populace. Et quelque part, il y a une déconnexion, quoi, parce que, même moi, quoi, rien que pour monter ce podcast dans Logic Pro, le nombre de barrières que je me prends dans les genoux, au bout d'un moment, j'aimerais juste dire non, stop. Là, quand je suis dans Logic, arrête de m'embêter. Part du principe que oui, je veux vraiment accéder aux fichiers audio que je viens d'importer dans Logic. Je suis quand même tombé la dernière fois sur une boîte de dialogue dans macOS qui disait « Le Finder a besoin de votre permission pour accéder au dossier bureau. »
Non mais quand même, quoi, merde.
Est-ce qu'on peut partir du principe qu'une personne qui gagne sa vie en utilisant Logic ou Final Cut, elle sait que le Finder, il peut accéder au dossier bureau? On peut?
C'est tellement confusant, quoi.
Et quand tu le dis, t'as l'impression que c'est une blague, mais non, c'est pas une blague. C'est un vrai message qui a vraiment été prévu. Enfin, je me demande si la solution à la fin, c'est pas d'avoir un mode caché. Je sais pas, une combinaison super compliquée de touches au démarrage, avec une grosse case à cocher qui consisterait à dire...
Vous êtes sûr?
Rends-moi l'utilisateur root.
Avec un frontispice qui dit « Toi qui entres ici, abandonne toute assistance ».
Mais oui, quelque part. Je suis même partisan que ça nique la garantie. Enfin, je sais pas ce qu'il faut faire, mais...
Mais un jailbreak de Mac, t'imagines? Mais ça existe peut-être déjà, en fait.
Mais... Ça existe, sauf qu'aujourd'hui, c'est 15 commandes différentes à passer dans le terminal et que tu peux de toute manière pas tout complètement désactiver, mais ça manque quelque part d'un mode pro, presque. En disant, voilà, quoi, t'es développeur d'application, t'es développeur d'extension du noyau, t'es quelqu'un qui bosse en permanence avec des périphériques un peu chelous parce que c'est ton métier et que tu gagnes ta vie en manipulant des trucs un peu chelous. Donne-moi les outils pour le faire, quoi.
Oui, parce que, enfin, pour le coup, sur Windows, tu les as, ces outils. C'est même que ça.
Oui, c'est ça. C'est le principe même de Windows, j'ai envie de dire.
Ouais.
Mais c'est marrant qu'on soit parvenu à la même conclusion, et je dis « on » en m'identifiant à Apple, mais qu'on soit parvenu aux mêmes conclusions que les gens d'en face en partant de l'extrémité opposée, quoi.
Oui, avec deux principes totalement différents, on arrive au même point.
C'est quand même une putain d'ironie de l'histoire de l'informatique, quoi. C'est qu'on a passé 20 ans à se foutre de la gueule de Windows XP puis Windows Vista, tout ça pour avoir l'UAC, quoi. Enfin, si t'as des interfaces musicales ou que t'as 15 NAS avec des vidéos en ProRes 8K et 50 000 balles de matériel autour de ton Mac, peut-être que t'as le droit d'accéder au bureau sans que le Finder te demande la permission. Peut-être. Mais bon, il y a des onglets dans Safari, donc visiblement, ça rachète tout.
C'est vrai que les onglets, cela dit, sur Safari, c'est l'actuel, c'est un peu confusant aussi. C'est le plus foncé, et en fait, on est habitué à ce que les plus foncés soient ceux en arrière-plan. Et en fait, non, c'est ceux qui sont en premier plan. Et dans ma tête, c'est comme le Safari sur iOS, cela dit, j'ai encore du mal à m'y faire.
Je dois être la seule personne de la planète qui ne détestait pas l'interface de Safari 15. Je sais que je suis dans le camp de la minorité. Je sais. C'est pas grave. J'ai perdu.
C'est pas la question que t'es dans le camp de la minorité, c'est que t'as tort.
Non, c'est juste que vous êtes pas prêts pour le futur. Mais c'est pas grave.
Ouais.
Non, je veux bien que c'était... une idée un peu bancale et une implémentation encore plus périlleuse. Mais j'aime bien ce que ça voulait dire du travail sur les interfaces, de la réflexion sur les interfaces et sur les usages.
Oui.
Et de la réflexion sur qu'est-ce qu'une page web, qu'est-ce qu'un Chrome, c'est-à-dire qu'est-ce que l'attirail d'une fenêtre, et c'est quoi la limite entre la page web et le Chrome du navigateur. Et si on part du principe qu'en plus, maintenant, on a des extensions qui peuvent modifier la mécanique à la fois du navigateur et des pages web, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de séparation entre le Chrome et la page web? Ou est-ce que finalement, les deux, c'est pas un peu la même chose?
Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une personnalité vraiment distincte comme ça, au lieu de faire, de faire obstruction, en fait, au contenu?
Ça pose plein de problèmes de sécurité, notamment qu'est-ce que c'est qu'une URL et comment il faut afficher une URL et c'est quoi une barre d'adresse et c'est quoi un champ de recherche, etc. et pas mélanger les données de deux onglets. Ça pose tout un tas de questions auxquelles je pense pas que Apple ait apporté, non seulement apporté de bonnes réponses, mais apporté des réponses tout court. et c'est pour ça, in fine, qu'on revient aux onglets, parce qu'ils ont préféré ne pas apporter des réponses. parce que c'est bon, quoi, on est en octobre. Mais j'aurais presque préféré, pour une fois, faire souffrir quelques millions d'utilisateurs pendant un an, juste pour voir où est-ce que tout cela allait finir.
Tu sais que c'est pas Animal Crossing.
C'est le problème. Et je pense que c'est pour ça que la solution la plus raisonnable, c'est effectivement de revenir au statu quo ante. Mais... quand même. J'aimais bien les onglets colorés, surtout sur Metro Zen Dodo, où Safari devenait soudainement tout violet.
Oui, mais ça, je pense que c'est parce que tu as une névrose liée à la couleur violette. Mais cela dit, je te rejoins sur une chose et je suis même un peu interrogatif parce que tu te souviens d'iOS 7, tu vois, et les choix quand même drastiques qui ont été faits et qui ont été globalement maintenus pendant deux, trois versions comme ça,
Oui, c'est ça.
sans trop de compromis. Il y a eu quelques compromis, mais pas beaucoup en fait, jusqu'à ce que iOS, je crois que c'était 12 qui a commencé vraiment à changer. 10, 12
Ouais, 10 ou 11, ouais, où ils ont commencé à
Sont...
remettre de la typographie, des choses comme
Voilà,
ça.
arrondir, enfin voilà. Donc il y a eu quand même une bonne période où c'était sans remise en question, c'était un peu totalitaire comme ça. Et après, peut-être qu'ils se disent que Safari, je sais pas. C'est vrai que ça tranchait un peu avec le reste de l'OS. Donc je sais pas trop s'ils ont.
Oui, mais en même temps,
Quelle a été
ça a
leur.
toujours été le cas avec Safari. Enfin,
C'est vrai, c'est un peu
mais
un.
oui, quelque part, t'as raison, ils sont têtus jusqu'à qu'ils le soient plus, quoi.
C'est curieux, hein. Je me demande enfin, quelle sorte de marée interne gouverne ces décisions, en fait. Parce que c'est très mystérieux.
Donc bon, moi, tout ce que j'en retiens, peut-être que je suis pas content, parce que voilà, j'ai dû faire. Donc ça va être la troisième fois que je reprends toutes les captures de mon chapitre sur Safari. Donc j'en ai un peu ras-le-bol. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être uniquement pour ça. Mais bon, les groupes d'onglets sont toujours là. La barre latérale est toujours subtilement cassée parce qu'une fois que t'es rentré dans un dossier de signer, tu ne peux plus refermer d'un coup la barre latérale. En tout cas sur iPad, parce qu'il me semble que sur Mac tu peux le faire. Bref, il y a encore plein de boulot. Il y a encore plein de bugs. Ça sort dans 7 jours, même pas. Mais bon, il n'y a plus ces onglets en forme de bouton et il n'y a plus la couleur dans la barre d'adresse. Je sais pas. Il y a confondant, effectivement, c'est le bon mot.
Et qu'est-ce que tu penses, toi? Une impression m'a saisi quand ils ont parlé des nouvelles puces. M1 Max et M1 Pro. Vivement la Pro Max. Vivement la Mini aussi. M1 Mini pour je sais pas quel appareil. Peut-être les AirPods du futur. Une impression m'a saisi qui était que la puissance représentée existait, mais dans un certain contexte. Et que c'était pas quelque chose de constant. Par exemple, enfin,
Explique.
ouais, les comparaisons qu'ils font sur des applications, c'est pas mal parce que du coup, tu as des cas concrets, voilà. Mais l'impression que j'ai, tu vois, j'ai mon iMac M1 là, et que j'aime beaucoup, je l'aime d'amour, c'est un des iMac qui me procure une sensation de redoudou dans le ventre, donc ça te trompe pas, tu vois, je sais que
Même si t'as choisi la mauvaise couleur.
c'est pas une mauvaise couleur, c'est la couleur qu'il fallait choisir. Et pour les auditeurs, c'est argent ou gris, je sais plus comment ils disent. De se dire argent parce que gris, c'est pas très valorisant.
Donc la mauvaise couleur.
Je peux assez facilement. Enfin, l'impression qu'on avait quand le M1 était sorti, c'était que genre, waouh, c'est un truc extraordinaire par rapport au truc Intel, tout ça. Et c'est vrai, ça souffle beaucoup moins à puissance égale, il chauffe pas trop. Voilà, mais j'ai quand même réussi à pousser dans ces retranchements pas trop difficilement. Parce qu'il suffit en fait qu'il y ait du Logic, plus du Chrome, plus je sais pas quoi, et en fait, ça c'est fini quoi. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et j'ai l'impression que ces Mac-là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans le cadre de quelque chose de monotâche sur une application précise de montage vidéo ou de création de 3D, tout ça, ça va vraiment être très bien. Mais que de toute façon, il n'y a pas de miracle non plus. Le cumul des applications, tout ça, fera que il y aura toujours un goulot d'étranglement plus ou moins proche. Et que du coup, la performance brute. Enfin, même réel, je veux dire, plutôt par rapport à l'usage des Intel, n'est pas non plus décoiffante. Le gain se fait plus sur l'autonomie, le gain de place, la ventilation, tout ça. Mais pas sur en soi la puissance en tant que telle. Mais peut-être que c'est moi qui. Enfin, je pense que c'est de la puissance au final, oui, c'est sûr, c'est des effets de la puissance en fait. Mais bon.
Non, je crois aussi que quelque part, de manière subtile, t'es influencé par les supports de communication d'Apple, ou en partie parce qu'ils veulent masquer l'encoche, mais à mon avis aussi en partie parce qu'ils veulent parler des usages de cette machine. La quasi-totalité des illustrations, c'est une application en plein écran.
C'est vrai, c'est vrai.
Le fait est que c'est la réalité des usages de cette machine. Ou en tout cas, des plus grosses configurations de cette machine qui sont à 5000 ou 6000 balles, et donc ce sont des vrais pros qui l'utilisent, et pas seulement des geeks qui ont envie de se faire plaisir avec une Rolls. Et donc voilà, tu vas être dans Photoshop en quasi plein écran, ou en tout cas sur toute la surface d'affichage, tu vas être avec Logic, avec Final Cut, avec tous les trucs de 3D dont j'essaie d'ignorer l'existence. et peut-être à côté, ou en tout cas minimisé dans le dock, Safari ou Chrome. Et où à la fin, c'est une bête de puissance en multitâche, mais c'est du multitâche réalisé dans une seule application. Par exemple, quand on parle de la gestion des flux vidéo, ils disent on peut gérer jusqu'à 20 flux en ProRes 422, 4K ouais. à 30 FPS. Oui, techniquement, c'est du multitâche. Tu gères 20 flux sur tes 10 cores, mais t'es dans une app.
C'est ça.
Final Cut. Et de fait, d'ailleurs, tu n'utilises d'ailleurs pas les 10 cores de CPU, mais tu utilises Metal pour rendre ça sur les cores de GPU. Donc en plus, c'est dans une chaîne 100% Apple. Et c'est aussi quelque part un souci quand tu penses au GPU, c'est que il te parle de teraflop. Oui, c'est bien. En puissance brute, on est au niveau d'une PS5 ou quasiment au niveau d'une PS5, mais enfin, la puissance brute, on s'en fout. La vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, Photoshop sur Windows avec une carte graphique pourrie, ça marche mieux que Photoshop sur Mac.
C'est ça le problème.
Parce qu'Adobe a toujours pas fini de prendre en charge correctement Metal. Donc il y a, c'est la puce la plus impressionnante que je connaisse. J'aimerais être blasé, mais je peux pas parce que c'est la puissance d'un Mac Pro sur une seule puce. C'est un Mac Pro. On parle de système sur puce, mais oui, ce système c'est le Mac Pro. C'est un Mac Pro sur puce. Et c'est un Mac Pro avec une carte Afterburner parce que on a des accélérateurs ProRes, bordel. Ce qui prouve à quel point cette puce est conçue de manière singulière pour une machine spécifique, un public spécifique, bordel, un accélérateur ProRes. À qui ça parle? Et on a pris des millimètres carrés d'un die. On a dépensé des dizaines de millions de dollars de développement pour un accélérateur ProRes. Et tout ça consomme moins de 100 watts. J'aimerais être blasé, hein. J'aimerais faire mon journaliste techno, mais juste pas, quoi. C'est une putain de révolution et ils font des choses qui sont juste très très impressionnantes. Mais, parce qu'à la fin je suis quand même un journaliste blasé, d'un point de vue structurel ça montre aussi qu'à la fin c'est juste un M1 auquel on a ajouté plus de cœur. On a fait du copier-coller dans l'application qui permet de... J'imagine ça comme un Photoshop, mais à la place de dupliquer des calques, tu dupliques des cœurs CPU et des cœurs GPU.
Et je pense que la réalité
j'entends
pas,
des
pas
milliers
loin,
d'ingénieurs ouais. hurler, mais c'est un peu ça. Hein, on prend des blocs d'IP, pour le dire de manière beaucoup plus pro. On appelle ça des IP blocks, et donc on les prend et on les colle ensemble. Et le boulot des ingénieurs, c'est de faire la colle. Mais c'est ça, quoi. On a pris le M1
On les salue d'ailleurs au passage.
les pauvres. dont je viens de maltraiter tout le CV. Mais c'est quelque part c'est ça. Hein, ils ont pris le M1, ils l'ont multiplié par 2 pour faire le M1 Pro, ils l'ont multiplié par 3 pour faire le M1 Max, et ils ont ajouté les accélérateurs ProRes. N'empêche que c'est quand même super impressionnant. Mais quelque part, oui, t'as l'impression que un peu le problème que tu soulevais avec l'iPad, quoi. Que oui, c'est bien pour Final Cut. Et
c'est pour ça que j'ai un peu... Enfin, j'allais dire, j'ai hâte de voir les Mac... Les nouveaux iMac Pro, je sais pas quoi. Enfin, si ça sort, ou peu importe, mais... En fait, non, ça va être le même sujet.
Mais ce que je trouve... le grand point positif de cette affaire-là, c'est que... Jusque-là, je pouvais avoir le débat entre moi et moi sur est-ce que j'achète un MacBook Air ou un MacBook Pro. Là, au moins, la question est résolue. C'est je suis très clairement fait pour les machines grand public... l'iMac est vachement plus puissant que tout ce qu'il me faut. Et la question est définitivement résolue. Cette machine n'est pas pour moi. Donc je n'ai objectivement plus aucune raison de mettre 3000 balles dans un ordinateur portable. Merci Apple de me faire économiser de l'argent.